D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzig. La télévision, la culture, il n'y a pas deux mots qui semblent plus antinomiques aujourd'hui. Et pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. Au début de la télévision, il y a eu une intention de culture. On diffusait des pièces de théâtre classiques dans ce qui ne s'appelait pas encore des premières parties de soirée. Il y avait Lecture pour tous, l'émission de Pierre Dumayet, Pierre Desgroupes et Max-Paul Fouché. Quand on parle de ce temps-là, c'est en général avec une grande nostalgie. Eh bien, voilà un argument de plus contre la nostalgie. Car ce temps-là, c'était aussi celui de Guy Lux et de bien des émissions imbéciles. La télévision, cela semble toujours avoir été Interville contre Lecture pour tous. La différence peut-être est que Lecture pour tous ne semblait pas avoir été créée pour justifier Interville. Et d'ailleurs, Interville, qu'est-ce que ça peut bien nous faire ? Les émissions de divertissement populaire n'ont pas plus à être jugées que les pièces de théâtre stupides de la Restauration sur ce qu'on appelait le boulevard du crime, parce qu'on ne jouait dans ces théâtres du boulevard que des pièces policières. Ceci n'est pas du fatalisme, mais je me méfie de tout ce qui tend à vouloir divertir les gens d'une manière convenable. Quel bureaucrate en décide ? Et puis, Lecture pour tous, est-ce que c'était aussi bien qu'on dit ? Des messieurs à pipe qui discutaient doctement avec des auteurs sur les sujets de leurs livres. Et en matière de peinture, la semaine prochaine, nous parlerons de Bernard Buffet qui a été filmé dès l'âge de 19 ans par la télévision. Mais il ne l'était pas pour son éventuel talent, il l'était pour son âge et sa célébrité déjà commençante. La télévision n'a jamais diffusé de grande émission, je ne sais pas moi, sur un grand artiste minimaliste comme Donald Judd. Et en a-t-elle consacré une à la musique de Steve Reich ou à la poésie ? On m'a récemment fait remarquer que le journal télévisé de France 2 n'a pas annoncé la mort d'Yves Bonnefoy. Mais France 2 a-t-il jamais fait une émission sur un grand poète ? On dit ça se dégrade. C'est possible quand on voit ce que sont maintenant les journaux télévisés, un débit de sensationnalisme et de faits divers. Mais c'est toute la société qui s'abaisse à cela, y compris la littérature. Voyez dans cette rentrée littéraire le nombre de romans rapportant des faits divers sans le moindre travail de transfiguration littéraire. La télévision est-elle plus coupable que ce qui, dans la hiérarchie esthétique, devrait lui donner l'exemple ? Quel est le secret professionnel de la culture à la télévision ? Je reçois pour en parler Émilie Aubry, qui travaille sur les deux chaînes de télévision les plus décentes, je crois qu'on peut le dire, qui sont Arte et la chaîne parlementaire. Sur la deuxième, elle présente une émission de livre, La Cité du Livre, et une sur le cinéma, Grand Écran, tandis que sur Arte, elle est chargée de la fameuse émission Théma. Émilie Aubry, vous êtes, je crois, passée de la politique à la culture à la télévision. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre ?
Par lassitude, peut-être, d'être uniquement une journaliste d'information, en effet, pendant 10 ans, ce qui peut paraître très court et ce qui m'a semblé une éternité. Par lassitude d'être uniquement dans le récit, la narration, l'explication d'une actualité politique et dans l'envie, je le retrouve assez bien dans ce que vous venez de dire, dans l'envie de s'inscrire dans autre chose, de profiter d'un temps plus long et de quitter cette immédiateté-là, voilà, par lassitude.
Par lassitude. Ça veut dire que c'est vous qui avez abandonné la politique et qui avez demandé de passer à la culture, ou on est venu un jour vous dire, mademoiselle ou madame, vous êtes...
Alors, jamais je dirais de moi que je fais des émissions culturelles.
Pourquoi ça ?
Parce que cette émission sur les livres, sur LCP, La Cité du Livre, au départ avait vocation à traiter, ce que ne faisait aucune émission de télévision à ce jour, de traiter la production et l'actualité des essais. Progressivement, finalement, on s'est dit que cette dichotomie-là n'avait pas tellement de sens et que puisque cette émission voulait recevoir des auteurs qui savaient décrypter un peu autrement le réel, il nous semblait que certains romanciers français le faisaient aussi assez bien. Donc voilà, mais on est davantage effectivement dans comment des auteurs produisent des livres qui racontent autrement l'actualité que dans des analyses culturelles. Je pense qu'on n'obéit pas du tout à cette exigence que vous essayez à l'instant de définir dans l'introduction de votre émission. Sur Arte, je fais cette émission qui s'appelle Théma, qui, une fois par semaine, le mardi soir, propose une grande soirée documentaire où là où encore, c'est d'autres formats pour décrypter autrement le réel. Il y a une exigence. Est-ce que cette exigence s'appelle culture ? Je ne sais pas.
Bah, elle part quand même d'un film. Enfin, ou en tout cas, elle est illustrée par un film, non, dans tes mains.
C'est une soirée documentaire suivie d'entretiens, effectivement, avec les auteurs ou avec des experts pour aller plus loin. Ce sont en effet des formats d'émission qui se proposent d'avoir des visions, des décryptages exigeants et en s'inscrivant dans le temps long, des décryptages intelligents et différents du réel. Peut-être, c'est la définition de la culture.
Alors, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous êtes décisionnaire dans ces affaires-là ? Est-ce que vous avez un rédacteur en chef ? Est-ce que c'est vous le rédacteur en chef ? Comment est-ce que tout ça s'inscrit dans une politique de chaîne ou indépendamment de la politique de la chaîne ?
Alors, on est dans deux cas de figure différents. Enfin, je suis dans deux cas de figure différents. La chaîne parlementaire, qui est une plus petite chaîne, propose cette liberté délicieuse qui est, peut-être comme à la radio d'ailleurs, que quand on anime une émission, on en est également la productrice. Donc, sur la chaîne parlementaire, dans cette émission qui s'appelle Dans la Cité du Livre, je suis totalement libre d'inviter qui je veux et de proposer, d'inscrire, de programmer les reportages que je souhaite. Donc, je suis rédactrice en chef de cette émission. Dans l'émission Grand Écran, il y a des personnes autour de moi, bien sûr, qui s'occupent d'acheter ou de coproduire les films et documentaires et fiction et cinéma qu'on inscrit dans l'émission, mais c'est moi qui organise des débats derrière. Théma, c'est une maison différente, comme vous savez, parce que c'est une grande maison franco-allemande, que les processus de décision sont assez complexes entre la France, l'Allemagne, des maisons de production qui nous livrent des documentaires qui viennent de toute l'Europe. Donc, sur Théma, je me contente d'être une modeste animatrice, présentatrice.
Il n'y a jamais de fiction dans Théma ?
Dans Théma, il y a parfois ce qu'on appelle du docu-fiction, c'est-à-dire ce genre hybride qui s'inscrit dans le réel et qui peut parfois proposer des reconstitutions fictive. On le fait effectivement souvent, mais davantage en dernière partie de soirée.
Est-ce que vous avez le sentiment que vous ou vos confrères à la télévision, vous êtes représentatifs ou pas, c'est vous qui nous le direz, est-ce que vous pensez qu'on choisit les invités aussi en fonction de rôle ? Je pense à ces philosophes ou ces politiciens de télévision qui sont là pour dire toujours la même chose et de la même façon, un peu comme à Guignol, Yann Yaffron et Madelon. Et on sait très bien qu'il y a aussi ce qu'on appelle à la télévision des bons clients, etc., etc. C'est aussi un spectacle. Est-ce que vous êtes, et sur Arte et sur LCP, soumise à une exigence de spectacle ?
Beaucoup moins. Après, parce qu'on fait quand même de la télévision et que donc l'audience existe et que c'est quand même une donnée dont on tient compte, même si elle est une récompense sur Arte et elle n'est pas une exigence, on en tient compte de temps en temps. C'est-à-dire qu'en fait, tout est une question de dosage. On va pouvoir s'autoriser 4 numéros de la Cité du Livre avec un auteur d'essai qui n'aura jamais fait de télévision. Effectivement, il y aura une prise de risque sur est-il ou pas un bon client. Et puis la fois d'après, on va inviter Philippe Solers parce qu'on sait qu'on sera dans, comme ça, une espèce de maestria et de réussite qui se traduira sur l'audience de l'émission. On est dans un dosage.
Pourquoi,
mais parce que
Solaire se fait fuir les gens.
Non, au contraire, bon. Solaire se marche très fort. Donc voilà, on est dans cette espèce de dosage, mais parce que c'est aussi une liberté qu'on peut s'autoriser. C'est-à-dire avec cette prise de risque du mauvais client ou du client non habitué au format télévisuel, et puis de temps en temps, inviter Philippe Solaire, je pense que c'est un bon exemple.
Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir de bonnes surprises avec de mauvais clients ? C'est-à-dire l'espèce de syndrome Modiano qu'on pourrait penser très mauvais et qui finalement, par son laconisme, finit par être bon.
On a récemment fait cette expérience avec Raymond Depardon, qui est un formidable photographe, mais qui est un taiseux. Donc, par définition, invité à taiseux à la télévision, c'est un peu dangereux. Et en même temps, dans la lenteur de ce débit, se dit quelque chose qu'on entend et qu'on rencontre en effet assez peu sur un plateau de télévision. Et une fois qu'on s'est habitué à ce rythme autre, à ce débit autre, on se rend compte qu'on est dans un moment de télévision un peu différent et donc assez délicieux.
Alors, vous venez de parler de rythme et ça, je trouve ça intéressant. Si vous me permettez un exemple personnel, mais je ne le donne que parce qu'il me semble probant, c'est que pour un de mes livres, il y a quelques années, j'ai été invité sur le journal au journal télévisé d'une grande chaîne, et avant d'arriver sur le plateau, le directeur de la rédaction m'amène dans son bureau pour je sais pas quoi, se détendre, parler, et puis il me montre son écran d'ordinateur avec les audiences de la veille, minute après minute, et puis il me désigne un moment de l'émission de la veille, du journal de la veille, en me disant « Ah, voyez, là, on a un peu baissé à ce moment-là, l'invité devait être un peu ennuyé, faites des phrases courtes, monsieur. » Ce que j'ai trouvé atterrant. Mais je comprends en même temps que la télévision, c'est un rythme. Donc, est-ce que vous pouvez vous permettre un rythme différent que le rythme excessivement hâtif de la télévision de maintenant ?
Oui et non. La Cité du Livre est un rendez-vous hebdomadaire. C'est déjà une chance aujourd'hui de pouvoir avoir une émission politico-littéraire une fois par semaine à la télévision. Elle a une durée relativement courte. Elle ne dure que 14 minutes. Donc ça, c'est une contrainte de temps. Arte également, même si ces soirées documentaires semblent infinies parce qu'elles démarrent à 20h50 et qu'elles se terminent à 2h du matin. Les entretiens qu'on a entre les films, eux aussi sont limités dans le temps. Mais cela dit, on n'est pas dans cette recherche hystérique du bon client et on va accepter des débits autres. Effectivement, la notion de rythme et de débit est importante. Sur Arte, c'est une chaîne, alors en plus parce qu'il y a la traduction allemande au moment où vous parlez, où on est presque obligé de ne pas couper systématiquement et frénétiquement les invités. Donc on a la possibilité de les entendre, de les écouter, de les interviewer. Effectivement, je pense un peu différemment que sur d'autres plateaux.
Est-ce qu'il est possible dans vos émissions et à la télévision, dans des émissions culturelles, d'accepter une chose qui est assez admise et même parfois recherchée dans la radio qui nous accueille là, qui est France Culture, qui est le silence?
Oui, oui, ça oui. Je pense même que j'ai eu quelques expériences de silence, mais encore une fois parce que j'ai cette chance de faire des émissions le soir qui sont quand même des formats un peu plus longs que ce qui peut exister ailleurs, et effectivement on peut s'autoriser le silence, mais en effet c'est aujourd'hui un luxe, voire un truc un peu bizarroïde, que de s'autoriser le silence à la télévision.
Mais vous pensez que ça peut être porteur de sens, ou est-ce que c'est un effet au contraire à la télévision, est-ce que ça serait un effet surjoué?
Ça n'est porteur de sens que si c'est un silence vrai, en effet. Un silence organisé, un silence joué serait insupportable, parce que la télévision a quand même cette vertu-là, c'est quand même pour ça que c'est un média que j'aime bien, de ne pas tellement mentir. C'est très compliqué, je trouve, de mentir à la télévision.
Vous m'étonnez, Émilie Aubry, comment le mensonge est-il impossible à la télévision, alors que c'est le média préféré des politiciens qui sont les plus menteurs des êtres humains sur la Terre?
Oui, sauf qu'on voit qu'ils mentent à la télévision. Ils mentent extrêmement bien, ou avec un certain talent, en tout cas une certaine gymnastique et dextérité rhétorique. Mais le mensonge se perçoit.
En même temps, quand même, l'argument que je vous oppose me paraît assez probant. Pourquoi c'est l'instrument préféré des menteurs?
Je ne suis pas sûre que ce soit leur instrument préféré. C'est l'instrument le plus efficace pour faire passer leur message. Ce qui n'est pas contradictoire avec ce que je viens de dire.
À propos de mensonge ou de pas mensonge, vous êtes à la télévision dans un instrument d'image. Et donc l'image, ça veut dire qu'il y a une mise en scène. Parce que ça n'est pas anodin, un plateau de télévision. C'est éclairé d'une certaine façon, vous vous êtes habillé d'une certaine façon. Les invités sont dans une posture plus naïve. On arrive avec une cravate ou pas, mais enfin on est moins apprêté. Donc en quoi les mises en scène participent à la culture ou pas? C'est-à-dire, est-ce que ça peut être nuisible ou pas? Je pense évidemment à certaines émissions, et d'ailleurs du service public, qui sont organisées comme des spectacles sur France 2, où on assiste à des espèces de machins avec des spectateurs qui applaudissent, des simili-mises à mort. Comment organisez-vous ça et qu'en pensez-vous?
Alors là encore, j'ai la chance d'être sur des chaînes de télévision qui non seulement se distinguent, mais cultivent une très très grande sobriété formelle. C'est vrai que le décor peut avoir quelque chose de paralysant et d'anticulturel, en effet, dans la mesure qu'il prend une importance telle que c'est d'abord lui qu'on va voir avant d'écouter le plus religieusement possible le message que quelqu'un vient y délivrer. Je crois que j'ai la chance d'échapper un petit peu à ça, même si, en effet, la télévision est toujours un exercice où l'on arrive angoissé par l'idée du maquillage, du paraître, de la façon dont on va bouger ses mains, ses pieds, son visage, son regard, et que quelque part, je pense que c'est assez stérilisant pour la pensée, en effet, et pour ceux qui sont sur un plateau, en effet, qui viennent parler d'un livre ou d'une œuvre.
Est-ce que vous pensez qu'une chose a complètement disparu de la télévision ou est impossible à la télévision, qui est possible ici, en ce moment même, puisque je vous invite dans mon émission, qui est une émission de conversation sans aucun sujet à propos, vous ne célébrez pas l'anniversaire de votre émission, etc., etc., je vous invite pour le plaisir et l'intérêt de la conversation, alors que la télévision est devenue à peu près exclusivement un instrument promotionnel. Serait-il possible pour vous de faire un thème ou une émission sur les livres sans en invitant des gens qui n'ont pas d'actualité ?
Oui, bien sûr, et on le fait d'ailleurs. Alors Arte, pour le coup, est une émission qui le fait vraiment. Quand, par exemple, on s'autorise à faire une thématique sur l'Iran et qu'on invite quelqu'un comme Abnous Chalmani, qui est une jeune auteure iranienne qui a fait un livre sur un essai sur l'Iran il y a maintenant un an, deux ans, trois ans, elle est évidemment hors actualité, hors promo lorsqu'elle vient nous en parler. On peut avoir pas mal d'exemples comme ça.
Nous allons maintenant entendre un grand homme de télévision qui est Pierre-André Boutan. Il parle de la création d'une de ses plus célèbres émissions océaniques et de la conception de ce que devrait, selon lui, être une émission culturelle. C'est extrait des Nuits magnétiques le 20 juillet 1989.
Alors ces gens qui n'aiment pas ça disent comment, c'est incompréhensible, c'est hermétique, les intellectuels parlent aux intellectuels, jargon, ghetto, sous-classe philosophique. Bon, il y a de temps en temps, les lundis ça parle de ce qui relève de l'esprit et de l'intelligence. Donc ça parle beaucoup. Et puis ça parle beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de fric et qu'à la limite quand on n'a pas d'argent, c'est vrai que ça coûte moins cher de faire parler des gens intelligents. Ça coûte pas plus cher de faire parler des intelligents que des imbéciles.
Ça coûte quelquefois moins cher, d'ailleurs.
Oui, ils vont plus vite. Il y a un jour après où ça parle de la création artistique, c'est des portraits de peintres, de musiciens, de cinéastes. Et le jeudi, c'est les hommes tels qu'ils sont filmés par tous les gens qui font des films qui relèvent de l'ethnologie. Mais l'ethnologie, c'est aussi bien la National Geographic que des documentaires de Jean Rouch ou tout ça. Bon, dans tout ça, de temps en temps, le jour de l'esprit, entre guillemets, c'est vrai qu'on pousse le bouchon un peu loin et qu'on se plante un peu. Ça arrive qu'on se trompe. Donc disons qu'en gros, sur le tiers des émissions, c'est-à-dire une des trois journées, il arrive une fois sur dix qu'on se trompe un peu. On n'a pas les moyens de faire comme dans un journal quand un article est mauvais, de le foutre dans un tiroir. On essaye de les améliorer, puis parfois on sait que c'est trop tordu. Ce qui fait que les gens qui nous reprochent d'être hermétiques et tordus, je sais pas, ils n'ont jamais vu Les Habitants des îles Trobriandes, un film qu'on a passé une fois, qui avait des luttes tribales insensées, les Anglais leur apportent le cricket, ils transfèrent toutes leurs luttes tribales dans des parties de cricket. C'est pas pour un télo, franchement, ça peut passer à 20h30 n'importe où. Que je veux dire, un entretien avec Satya Jitré ou pendant une heure de voir une troupe de danseurs danser ou de montrer ce qu'est un peintre, etc., ça me paraît pas spécialement hermétique et tordu. Ce temps, parfois, on a fait des débats où on s'est un peu gouré, et je le dis très simple, il n'y a pas à se compliquer la vie à dire le contraire, mais que quand Emmanuel Lévinas parle, il parle avec une grande clarté, une grande limpidité. Quand on ressort des fonds de la télé où ça dormait comme des momies, où on en réveille un peu la momie, que Emmanuel Berre, la Béliot et même Roland Barthes, c'est pas le bout du monde à comprendre, c'est des gens qui racontent ce qu'ils sont, comment ils vivent, leur rapport à la pensée. Ah, ça c'est tragique, il y a des gens qui racontent leur rapport à la pensée, ça devient dur. On peut pas mettre un jeu à la fin où on gagne 100 000 balles en donnant la date de naissance de Lévinas et la couleur de ses chaussettes. Mais je dis que n'importe qui de normal peut s'intéresser à ça. Océanique, ça exprime une somme de curiosité et ça ne fait jamais que raconter à peu près 10% de ce qu'on trouve dans les pages dites intelligentes des journaux, des revues qui existent en France. C'est pas plus sophistiqué que le Figaro Magazine, franchement. C'est pas plus tordu, c'est pas plus compliqué. Alors si le Figaro Magazine, c'est pour une élite, comme dit Pierre Vigne, une sous-classe philosophique, ça devient tragique.
Émilie Aubry, nous venons d'entendre Pierre-André Boutan. Symboliquement, la semaine où il a cessé de présenter Métropolis sur Arte, parce que je crois qu'on s'était débrouillé pour l'évincer, et la semaine même où la chaîne a cessé de diffuser des films en version originale. Alors, je ne vous demande pas de commenter la chaîne qui vous emploie, mais diriez-vous qu'un renoncement ne vient jamais seul ? C'est-à-dire que si par hasard on cesse une certaine intransigeance de diffuser des films en VO, qu'on supprime Métropolis, qu'on finira petit à petit par faire du Morandini sur Arte ?
Non. non, je dis avec sincérité.
Est-ce que vous pensez qu'il est possible de parler de forme à la télévision, laquelle télévision n'est elle-même que sujet en général ? Est-ce que vous pouvez, quand vous parlez de livres ou de films, parler de forme, poser à un cinéaste, à un écrivain la question de la forme de son livre ? Est-ce que ça n'est pas compliqué ou rendu impossible par le médium lui-même ?
On peut toujours parler de forme en télévision. Alors en littérature, oui, lorsqu'on interviewe un auteur, évidemment. On ne peut pas en faire le centre exclusif d'une interview, en effet, parce que on est quand même face à une certaine durée en télévision, on est toujours dans l'obligation d'illustrer. Donc c'est faisable en peinture. La technique permet justement de proposer une image mouvante pour s'intéresser à la forme picturale, ce qui est possible pour la peinture. Et là, pour l'instant, n'est pas possible pour la littérature. C'est-à-dire qu'une émission de télévision qui déciderait de s'intéresser exclusivement à la forme littéraire, en effet, je pense, serait une catastrophe d'audience. Et même, je pense, ne pourrait même pas exister. Parce qu'on est dans cette habitude de consommer la télévision pour y voir aussi des images. Donc, on peut y entendre des entretiens. Et encore, les entretiens en télévision avec des artistes, des auteurs ou des intellectuels sont quand même toujours réduits. Mais même ces émissions d'entretiens, tiens, là, on est obligé de les séquencer et de les circonscrire dans le temps. Je crois que ça, malheureusement, c'est l'une des exigences de la télévision, qui est de proposer un rythme, une séquence qui, je pense, rendrait peu digeste des formats qui s'intéresseraient exclusivement à la forme.
Mais est-ce que vous ne présupposez pas là-dedans la hâte des téléspectateurs, due à je ne sais quoi, à l'habitude des clips vidéo, de la publicité qui est très courte, qui fait des shots en permanence à ces gens qui ont l'habitude des durées de plus en plus courtes. Mais est-ce que ça n'est pas un présupposé? Qu'est-ce qui vous empêcherait, Émilie Aubry, de vous dire, tiens, je vais produire sur Arte ou sur LCP une émission sur le plus grand roman formel du XXe siècle ou un des plus grands, qui est l'Ulysse de Joyce? Est-ce que ça serait impossible d'expliquer aux gens la forme d'Ulysse, puisque après tout, on donne des cours dans des universités là-dedans? Pourquoi est-ce que ça serait impossible à la télévision?
Rien n'est impossible. On peut toujours proposer une collection documentaire qui s'intéresserait à l'Ulysse de Joyce. Et, on peut toujours le faire, mais je pense en effet que ça... Je pense que ça serait une catastrophe d'audience. Je ne suis pas certaine que c'est un format qui rencontrerait son public. Je peux, parce qu'en par ailleurs, je pense que les gens viennent regarder à la télévision des choses qu'ils ne vont pas entendre dans des colloques ou dans des amphithéâtres d'université. On vient y chercher quelque chose. Je crois qu'il faut quand même accepter un minimum la dimension divertissante de la télévision. Et quand je dis divertissante, j'essaye d'assumer sa dimension pascalienne, c'est-à-dire certes secondaire et légère et en même temps indispensable.
Vous avez aussi employé tout à l'heure un mot intéressant et qui est peut-être, vous allez me le dire, le nœud de tout. C'est-à-dire que vous avez employé le mot image en disant il faut de l'image. Et on dit souvent image comme si c'était pas bien. Il y a beaucoup de gens qui attaquent la civilisation de l'image. Régis Debray n'arrête pas d'attaquer l'image. Or, l'image, moi, je pense que c'est très bien. La littérature, c'est de l'image. C'est une forme d'explication plus rapide de la pensée. Et Serge Danet, quand il parlait de la télévision, ce qu'il reprochait à la télévision, c'était de ne pas avoir assez d'images. Il appelait ça, lui, la culture de l'écran. Donc, il y a l'écran par opposition à l'image. Est-ce que vous diriez que, précisément, peut-être vos émissions ou les émissions culturelles manquent d'images et que c'est là le grand défaut?
Oui, et alors c'est vraiment intéressant parce que je pense qu'on est exactement dans cette réflexion-là aujourd'hui. Regardez par exemple comment France 2 nous annonce avec une énorme publicité et communication qu'elle va avoir un nouveau magazine culturel qui va renouveler le genre, qui va s'appeler Stupéfiant, qui va être produit par Laurent Bon, le producteur de Yann Barthès, qui va être animé par Léa Salamé, mais qui, comme pour nous rassurer, nous dit ça va être formidable, ça sera une émission culturelle, mais ça, en fait, en réalité, ce sera une émission de reportage. Et en nous annonçant que ce sera une émission de reportage, on semble nous annoncer aussi que, du coup, ça marchera. Contrairement à ces tentatives d'émissions culturelles avant, qui n'étaient pas des émissions de reportage et qui donc se cassaient la gueule. Donc, effectivement, la télévision, lorsqu'elle se pique de parler de culture, est dans cette obsession de produire de l'image parce qu'elle pense que l'image va compenser le fait qu'on parle de culture et que donc elle va faire venir des gens. Sauf qu'on a une manière de produire de l'image dans ces émissions culturelles qui, finalement, reste assez classique. On pourrait avoir des... Ce que je vous citais à l'instant sur ces expériences que fait Arte pour parler de la peinture, qui ont recours à des techniques ultra modernes qui permettent de rentrer dans l'image, dans le tableau, etc. C'est vrai qu'on pourrait se dire qu'on pourrait faire ces tentatives pour la littérature. Mais je pense que ça suppose une créativité, une inventivité que pour l'instant on n'a pas suffisamment et qu'il y aurait manière à rentrer dans les textes comme on rentre dans les tableaux en imaginant des scénographies, des jeux avec les lignes, les mots qui pourraient être intéressantes. Mais je crois sur des formats courts quand même.
Est-ce que vous pensez que les défauts qu'on pourrait relever dans la manière de traiter les arts, pour ne plus dire la culture, vient simplement d'une habitude, parce qu'au fond, les chaînes de télévision, c'est pas ça qui rapporte de la publicité, et qu'au fond, on a un peu des émissions là, qui sont là, ça fait plaisir, on les a, mais on leur donne pas beaucoup d'argent. Est-ce que ça vient d'un manque, d'une habitude de ronronner un peu, ou d'un manque d'argent, ou des deux? Qu'est-ce qui vous empêcherait, Émilie Aubry, de proposer à, votre, à l'une des deux chaînes bon, pour laquelle vous travaillez, c'est ce que vous venez de me dire?
LCP, c'était l'évidence parce que ce n'est pas une chaîne culturelle, c'est comme d'abord une chaîne politique, d'information politique, ça ne s'y prêterait absolument pas. Sur Arte, on pourrait tout à fait envisager de proposer ce qu'on appelle des collections documentaires, c'est-à-dire, mais d'abord, je pense que là, ça suppose des compétences de réalisation que je n'ai pas, c'est à des réalisateurs d'avoir des idées comme ça de mise en forme nouvelle de la littérature de format nouveau. On a tendance en télévision à ne parler que d'émissions, mais le documentaire, le genre documentaire peut précisément permettre d'aborder différemment les thématiques culturelles. D'ailleurs, Arte le fait pas mal du tout. C'est vrai qu'on a finalement peu de créativité, une vision très très classique de ce qu'est une émission culturelle. D'ailleurs, on fait tout le temps référence, vous l'avez dit, à celle d'autrefois. On ne s'est jamais remis du Grand Échiquier, qu'on continue de citer comme une espèce de graal, comme ça, de référence d'émission culturelle. C'est vrai que ça a duré 18 ans, c'était de la variété culturelle. Alors certes, c'était l'occasion de mélanger aussi bien des pointures de la musique classique que des saltimbanques et d'accueillir Karajan, Rostropovitch, Yourcenar, Truffaut et Belmondo et Delon. On était là typiquement dans l'émission Carrefour. On ne s'est pas remis de ça, comme si c'était la seule chose que la télévision était capable de produire en termes d'émissions culturelles. Non, c'est vrai que je pense qu'il y a une inventivité, une créativité à stimuler, mais qu'on ne stimule pas tellement parce qu'on sait que globalement, ça ne marche pas du tout.
Mais pourtant, ça a marché. Jean-Christophe Averty, quand il faisait des émissions avec des mises en scène très singulières, ça marchait. Et on s'en souvient aussi.
Ça marchait parce qu'il y avait cette audace sur la forme, en effet. Il y avait cette audace sur la forme. Et parce que, si vous pensez à Dim Dam Dum ou à des émissions comme ça, on était dans des émissions de variété culturelle extrêmement exigeantes et intelligentes. Mais on était quand même dans la variété culturelle, on n'était pas dans la pure émission de culture.
Pour finir, Émilie Aubry, essayez de me dire si le secret professionnel de la culture à la télévision serait que la télévision est un objet à qui on demande toujours plus qu'elle ne peut donner, ou bien serait-ce au contraire qu'on a cessé d'être assez exigeant avec elle, envers elle, pardon.
Eh bien, en réalité, je pense que la télévision, à quelques exceptions très exceptionnelles, comme des gens comme Pierre-André Boutan, la télévision n'a jamais été très exigeante lorsqu'elle a décidé de parler de culture. En réalité, on en revient peut-être à ce qu'est l'ADN de la télévision, ce que vous disiez dans l'introduction de cette émission. L'obligation de produire du spectacle rend obligatoire aussi de rendre cette culture accessible au plus grand nombre et divertissante. Et donc, par définition, toutes ces contraintes-là propres au genre télévisuel empêchent l'exigence absolue dont vous rêvez.
En fait, j'ai une dernière question. Est-ce que le drame, ça n'est pas si dramia, tout n'est pas non plus si mal. Est-ce que le drame, ça n'est pas le succès? C'est-à-dire que plus on a une plus grande quantité de téléspectateurs, plus on est coincé, parce qu'on sait que dans cette très grande quantité, on s'intéresse à des gens qui ne sont pas toujours les plus raffinés. Et que l'idéal, c'est vous, c'est Arte, c'est LCP, et d'avoir des chaînes plus petites où on peut dire des meilleures choses.
Oui, je crois qu'il faut accepter qu'il y ait différentes manières de parler de culture à la télévision. Et qu'il ne faut, faut pas jouer les stoms non plus. C'est-à-dire par exemple, on pourrait quand même saluer le fait que France 2 continue de proposer de nouveaux formats d'émissions culturelles, puisqu'elles se cassent toute la gueule, qu'elles sont généralement toutes des catastrophes d'audience, et qu'on est quand même entre... Alors vous allez me dire, parce que c'est le service public, et donc quelque part ils sont quand même dans cette obligation d'en inventer d'autres et de nouvelles en permanence. Mais enfin, on est quand même toujours dans ce souci d'en fabriquer. Tant mieux, il faut s'en réjouir. On n'a pas encore totalement abdiqué, lorsqu'on est une grande chaîne de service public, d'essayer de traiter de la culture à la télévision. Mais acceptons l'idée qu'il y aura ces émissions télévisuelles de culture pour tous et ces niches exigeantes, parfois austères, mais qui font aussi la force, la spécificité et l'ADN de quelques médias plus confidentiels.
C'était Secret professionnel, le 228e. La semaine prochaine, nous irons à la recherche du secret professionnel de Bernard Buffet et de Pierre Berger. Réalisation, Clotilde Pivin. Attaché d'émission, Daphné Abgral. Prise de son, Pierre Monteil. Recherche INA, Sophie Chauveau. Dans un instant, une saison au théâtre.